enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà, bonjour. Eh bien, vous avez vu un clown. Faites attention, c'est comme dans les gares. Un clown peut en cacher un autre, on ne sait pas. Il disait que le frère disait que avec son complice là qu'il avait une bonne nouvelle à apporter aux enfants, hein. Et heureusement que nous avons des bonnes nouvelles à recevoir de la part de Dieu et que l'Église est l'endroit où est propagée la bonne nouvelle, l'Évangile, hein. Ça veut dire bonne nouvelle parce que sinon extérieurement dans le monde on n'a pas tellement toujours de bonnes nouvelles, hein. Si vous suivez beaucoup les infos, c'est pas toujours beaucoup de bonnes nouvelles. Le journal, c'est pas beaucoup de bonnes nouvelles, n'est-ce pas, hein? Et j'ai amené avec moi un journal. Ah, je vous dis pas le titre parce que c'est défendu de dire le titre. Et donc, non, parce que c'est enregistré, donc il faut. Et j'ai amené ce journal parce que je veux vous lire un petit bout d'article qui m'a. C'est pas le journal d'hier, ça fait quelques jours déjà, mais qui m'a percuté. Alors je vous lis d'abord, si vous voulez, ce petit article-là, et puis un fait divers, quoi. Et puis après, comme ça, j'aimerais pouvoir reparler, quoi. Hein. Voilà. Alors cet article dit ceci. Vendredi soir à 18h45, rue Merneau et à l'angle de l'impasse du facteur Klein, c'est dans le quartier un petit peu derrière là, où la ruelle souffre d'une carence de lampadaires, un quinquagénaire, Monsieur Martin, revenant à bicyclette d'un supermarché, était violemment pris à partie par un groupe d'individus qui le jetèrent à terre, s'emparèrent de ses effets, y compris de son blouson, lui ayant de surcroît porté plusieurs coups violents, dont plusieurs à la tête. Les secours tardaient à se manifester. Une dame très âgée, témoin depuis son balcon de l'agression, affirmera le lendemain à notre correspondant local que plusieurs personnes, dont un ecclésiastique de sa connaissance, passèrent sans porter secours à M. Martin, craignant sans doute fort justement que la bande de malfrats ne soit guère éloignée. C'est finalement M. Abdelkarim K, de nationalité turque, qui longea l'impasse Klein, aperçut dans le faisceau des phares de sa 504 le corps gisant. N'écoutant que son courage, Monsieur Abdelkarim porta assistance à Monsieur Martin et le voitura au service des urgences de l'hôpital Émile Muller, non sans avoir chargé la bicyclette fort endommagée de Monsieur Martin sur la galerie de son véhicule. Monsieur Abdelkarim s'est esquivé avec discrétion, sans souhaiter répondre à nos questions. Toutefois, l'infirmière de service déclara que Monsieur Abdelkarim avait apporté le lendemain quelques vêtements de rechange à Monsieur Martin de son plein gré. Hein? Eh bien, oui, je suis content que vous encouragiez M. Abdelkarim, de nationalité turque, qui a su reconnaître dans son prochain quelqu'un à qui finalement il ne devait rien du tout, quoi. Hein? Bon, bien sûr, cette histoire n'était pas dans le journal que je vous ai montré, elle est seulement sortie de ma plume. Hein? Mais j'avais envie de tourner d'une façon un petit peu plus contemporaine un texte qu'on connaît bien, mais qui peut devenir quelque chose un petit peu, qui risque de devenir un peu ronron si on n'y fait pas attention. Et on retrouve ça dans l'évangile de Luc, hein, vous connaissez ça, au chapitre 10, verset 25. Hein, on peut le lire ensemble. Là, vous allez le reconnaître une version plus classique. Hein. Mais pendant que vous cherchez, vous cherchez pas parce que c'est déjà. Mais je crois qu'il faut que nous fassions attention de ne pas risquer de nous habituer à la parole de Dieu. Donc un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, hein, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Ben, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et c'est écrit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh ben, voilà, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, oui, mais c'est qui mon prochain? Alors Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il est tombé au milieu des brigands qui l'ont dépouillé, chargé de coups, et ils sont partis en le laissant presque mort. Voilà qu'un sacrificateur qui, par hasard, descendait par ce chemin, ayant vu cet homme, passe à outre. Et puis, un lévite qui est arrivé aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe à outre. Mais voilà qu'un samaritain qui voyageait, étant venu là, a été ému de compassion lorsqu'il l'a vu. Il s'est approché et il a bandé ses plaies, il a versé dessus de l'huile et du vin, et puis il l'a mis même sur sa propre monture, et donc il marchait à pied, il l'a conduit à l'hôtel, il a pris soin de lui. Et puis le lendemain, au moment de partir, il a tiré de sa poche encore 2 deniers, il les a donnés à l'autre, il lui a dit, écoute, prends bien soin de cet homme. Si tu dois dépenser quelque chose de plus, quand je reviens, je te rembourse. Alors Jésus pose la question à son interlocuteur. Il lui demande, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands? L'autre dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, hein, répondit le docteur de la loi. Et bien Jésus lui dit, toi, fais la même chose. Voyez, alors bien sûr on peut lire ça, puis on dit, ouais, c'est un vieux texte. C'est un vieux texte parce que les Juifs et les Samaritains, ils pouvaient pas ils s'appréciaient pas. Hein? Donc, on peut dire comme ça. Et puis, si on le dit comme ça, ça nous concerne pas. Parce que nous, on aime beaucoup les Samaritains. Hein? C'est facile, on n'en connaît pas. Hein? Donc, voilà. Mais comme je disais déjà une fois, si je dis, est-ce que vous aimez les Samaritains? Pas de problème. Si je dis, est-ce que vous aimez les Maghrébins? Alors là, les visages se ferment. Attendez, ils disent, attendez. Attendez, vous ne les connaissez pas comme nous, on les connaît au quartier. Hein? Parce que venez voir chez nous un petit peu dans la ZUP, là-bas. Hein? Vous, à Burnop, vous êtes tranquille, hein, question, hein, hein. Mais nous, là, hein. Mais Jésus parlait pour les cas qui existent, hein. Et il nous faut être sûrs que nous lisons la Bible, que nous lisons l'Évangile et que nous entendons les paroles de Jésus pour les cas qui nous concernent. Pas pour les cas qui concernent ceux qui vivaient il y a 2000 ans en arrière, hein. Et je crois que nous devons bien nous demander aujourd'hui qui est notre Samaritain et ce que nous faisons avec notre Samaritain. Voyez, cet homme est venu, mais il est le docteur de la loi, je veux dire, il n'est pas venu pour avoir une réponse. Il est venu pour polémiquer. Il n'est pas venu parce que il souhaitait réellement changer, apprendre quelque chose. Il est venu pour démontrer, pour savoir si Jésus savait répondre à ces questions. Il voulait provoquer seulement une réflexion théologique. Il n'avait pas une vraie volonté de progrès. Il n'avait pas. Il est venu pour l'éprouver. C'est quand même, quand on y pense, c'est un peu grotesque, quoi. Un homme religieux qui vient pour faire passer un examen à Jésus. Ça va la tête ou comment? Ça va bien, non? Il est venu pour l'éprouver. C'était pas sa question, c'était pas son souci à lui, la vie éternelle. Ou plutôt, c'était un souci, mais un souci théorique. Un souci théologique. Son but, c'était pas de dire, comment est-ce que tous les jours je vais vraiment vivre la vie de Dieu, vivre dans la présence de Dieu, vivre. Non, c'était simplement une question comme une question de droit, de mérite. Comment est-ce que je peux être sûr d'avoir sur mon passeport le tampon du ciel? Comment est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Mais Jésus voyait son cœur, il savait ce qui se passait en lui. Alors il l'a renvoyé à ce qui était normal, la parole de Dieu, il l'a renvoyé à la Bible. Il le renvoie à la loi de Moïse, il lui dit, écoute, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit? Voyez, il y a beaucoup de gens qui sont très compliqués, qui demandent à Dieu des preuves, des choses, sur des sujets sur lesquels Dieu s'est prononcé clairement. Ça me fait penser, c'est une toute petite parenthèse, mais ça me fait penser aux gens qui me disent quelquefois, par exemple, « Eh bien, moi, je me ferai baptiser quand Dieu me le montrera. » Mais je vais te dire une chose, Dieu te le montrera jamais. Dieu te le montrera jamais parce qu'il l'a déjà dit. Parce qu'il s'est déjà exprimé sur la question. Pourquoi obliger Dieu à s'exprimer sur quelque chose qu'il a déjà dit? S'il l'a dit, pourquoi le forcer à redire? À la limite, si quelqu'un n'avait pas compris que Dieu l'ait dit, alors je pense que Dieu va le lui redire, oui. Mais si on l'a lu, Jésus dit au docteur de la loi, il dit, mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Alors cet homme a fait dans un sens, il a fait une bonne réponse. Mais c'est une réponse qui est une réponse de catéchisme. Parce qu'on peut faire des bonnes réponses de catéchisme. On peut faire des bonnes réponses de connaissance. On peut savoir ce qui est écrit et ne jamais l'avoir mis en pratique. Tout le monde peut connaître la parabole du bon samaritain et être incapable de dire comment une seule fois dans sa vie il a essayé de la mettre en pratique. Mais il peut la raconter. On peut la redire. On peut peut-être la mettre en scène. Hein? Et donc, il a répondu, il a dit, ben voilà, le commandement principal, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Ok? Hein? D'abord, il dit de tout ton cœur, parce que c'est du cœur que part vraiment l'attachement à Dieu. Et c'est parce que l'attachement à Dieu est dans notre cœur que ça nous le fait vivre avec notre âme, c'est-à-dire avec tout notre être intérieur. Ça nous le fait vivre avec notre force, c'est-à-dire dans nos actes, en action, et dans nos pensées, dans notre vie intérieure, dans nos sentiments, tout part de l'intérieur. Et cet homme a rajouté, ce sont deux versets dans la parole de Dieu qui ne sont pas ensemble, hein, qui ne sont pas au même endroit. Il a rajouté dans Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et on peut se demander pourquoi il a rajouté ça au commandement, au début du décalogue. Hein. Mais je pense qu'il l'a fait à dessein parce que c'est là qu'il voulait amener la discussion. N'oubliez pas, il est venu pour une discussion théologique. Hein. Il est venu avoir une palabre théorique avec Jésus. Et il aimerait en venir à cette question-là du prochain. C'est pour ça qu'il ramène ce verset-là. C'est pas parce que son cœur était pris de charité pour les siens. C'est seulement parce qu'il a envie de discuter de ça. Alors, Jésus lui dit, ben oui, c'est bien, tu as bien répondu. Fais ça et tu vivras. Et le voilà qui dit... Mais lui, voulant se justifier, j'aime beaucoup ce « voulant se justifier », mais qui l'accusait? Mais qui l'accusait? Quand quelqu'un... Vous avez des gens qui commencent à se justifier avant qu'on ait dit quelque chose, mais qui les accuse? Mais qui l'accusait? Jésus lui a dit « va, fais cela et tu vivras » sur la base des paroles que lui-même, docteur de la loi, il avait dit. Il voulait se justifier de quoi? Mais de ce qu'a sa conscience. Sa conscience était en train de crier, de lui crier aux oreilles que lui-même, il n'avait jamais fait ça. Que lui-même, sans doute, en tout cas, par rapport au fait d'aimer Dieu, je ne crois pas qu'il était irréprochable, mais en tout cas, son prochain, il était complètement out, tout à fait hors du coup. Alors, il éprouvait le besoin de... Il voulait se justifier. Et alors, c'est là qu'il voulait en venir. Ça, c'était son but. Il voulait discuter de savoir qui est le prochain. Qui doit-on considérer comme son prochain? Alors voilà, ça c'est sa vraie question maintenant. Le reste, c'est, hein, il tournait autour pour en arriver là. Et il dit maintenant, et notre prochain c'est qui? Il faut savoir que à cette époque, chez les Juifs, il y avait des grandes discussions pour savoir si le prochain devait être considéré uniquement comme les Juifs, ou si on devait inclure dans le prochain les païens, les non-Juifs. Les incirconcis, les autres, les étrangers. Et on pensait souvent que le prochain ne fait pas partie de ceux-là. Le prochain, c'est nous. C'est-à-dire que Dieu nous demanderait, dans cette vision-là, d'aimer ceux que déjà naturellement on a tendance à aimer, quoi. Non, mais le défi est bien moins lourd, hein. C'est quand même facile d'aimer les gens qui nous aiment, ceux qui nous sont agréables, ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont comme nous, ceux avec qui on s'entend bien, ceux avec qui on a des préjugés favorables. Alors, ils avaient détourné la parole de Dieu pour dire que le prochain, c'est seulement ceux-là. Et comme il y avait des discussions avec ça, il veut essayer de piéger Jésus sur ce domaine. Oui, mais qui c'est le prochain alors, hein? Mais au lieu de rentrer avec lui sur ce terrain théorique, alors Jésus va lui opposer une histoire, une petite parabole. Une parabole, c'est une histoire qui peut arriver. Et qui arrive même, qui a un degré de probabilité. C'est pas une fable, hein. C'est pas comme une fable où, je sais pas, dans les fables, les animaux parlent, par exemple, hein. Mais dans une parabole, tous les faits sont réalistes, hein. C'est le genre de la parabole. Alors Jésus lui raconte cette histoire de cet homme qui s'est fait agresser. Et puis ceux dont on aurait pu attendre du secours. Les premiers qui auraient pu le secourir, ceux qui étaient le plus portés sur la religion, et Jésus les met volontairement en scène, d'abord un sacrificateur. La forme en grec dit « passe à outre », c'est vraiment faire un détour, quoi. L'idée, c'est de faire un détour pour l'éviter, quoi. Hein? Anti, ça, quand il y a le mot anti, c'est passer loin, à l'opposé. C'est comme quelqu'un qui traverse la rue parce qu'il veut pas vous voir. Voilà. Il a traversé, il est passé. Donc, sûrement parce que dans ce chemin désert où les brigands ont attaqué ce type, ben, les brigands, ils sont où? On sait pas trop, hein. Peut-être qu'ils sont juste derrière le rocher, là, ou derrière le buisson. C'est peut-être pas le moment de s'attarder, hein. Alors l'autre, il a taillé la route, hein. Et Jésus présente après de nouveau un lévite. C'est la même catégorie, si vous voulez, juste dans la hiérarchie, un échelon en dessous. Mais c'est le même genre. Et il est passé outre aussi, il a traversé, il n'a pas vu, il a fait semblant. L'autre était là, il criait au secours, au secours. Il n'a rien entendu. Hop. Il s'est tiré. Et voilà qu'un Samaritain arrive. Mais quand le mot Samaritain, rien que pour un juif, quand on disait Samaritain, c'est un mot qui pouvait servir d'injure. Si on voulait insulter quelqu'un, on pouvait le traiter de Samaritain. Vous voyez, c'est pour dire, hein. Ça voulait dire quand les pharisiens étaient tellement fâchés avec Jésus, ils l'ont traité de Samaritain. On les détestait, mais vraiment détestait. Alors quand Jésus a raconté cette histoire, où c'est le Samaritain qui secourt un juif, je vous garantis que dans l'auditoire, là, les gens avaient de la peine à avaler l'histoire, hein. Là, celle-là, elle passait vraiment difficilement, hein. D'abord, ça leur paraissait tellement hautement improbable. De toute façon, ils savaient très bien que eux, ils auraient jamais fait ça. Et que les autres d'en face ne l'auraient jamais fait non plus, parce que, hein, s'ils se détestaient, c'était cordialement et réciproquement, hein. Bon, pas de problème. Mais, ils savaient que, Mais pour eux, cette histoire était tellement humiliante. Jésus les humiliait en montrant que ceux qui auraient dû être les meilleurs de leur peuple juif étaient incapables de faire un geste et qu'il faut aller chercher, un Samaritain, un étranger, un Samaritain, c'était un fou, c'était un possédé, qui lui montre du courage, de la bonté, de la générosité, de l'abnégation dans cette histoire. Je crois qu'ils étaient vraiment, énervés de l'entendre, hein. Alors quand Jésus, à la fin, pose la question, au verset 36, la question que pose Jésus semble être un petit peu mal posée. Parce que Jésus dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain. Alors que en réalité, c'est plutôt, ça serait plutôt l'inverse. De qui a-t-il été le prochain? Mais bon, mais Jésus veut dire que la qualité de prochain, ce qui en fait la qualité, c'est le fait de l'assumer. Parce qu'en fait, dans cette histoire, tout le monde était prochain de tout le monde. Ils étaient tous, dès qu'on se rencontre, on est proche, hein? Dès qu'on se rencontre, on est proche, hein? Non, bon, ça va. Alors, ils étaient tous des prochains les uns des autres. Mais certains ont assumé cette relation et d'autres ne l'ont pas assumé. C'est ce que Jésus veut dire. Ils étaient tous prochains, mais Jésus dit lequel de ces trois a assumé son rôle. Et vous voyez, le docteur de la loi était tellement fâché avec cette histoire, et tellement fâché avec les Samaritains, qu'il a même pas, de sa bouche, il a même pas pu dire, quand Jésus a dit lequel de ces trois, il a pas pu répondre, eh bien c'est le Samaritain, il pouvait pas prononcer ça. Il a dû recourir à une périphrase, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Mais il n'avait pas envie de dire c'est le bon Samaritain. Alors mettre bon devant Samaritain, alors là, ça il n'aurait pas pu, non, ça c'est pas possible, hein, impossible. Ben il a dit, ben voilà, j'imagine le voir le répondre avec un haussement d'épaule. Bien sûr, cette question est une question bête, hein. C'est celui qui a exercé la miséricorde, évidemment. Mais Jésus lui dit, ben, fais la même chose. Vous remarquerez que Jésus n'a pas ajouté, et tu vivras. Jésus ne prétend pas que c'est le fait de faire des bonnes œuvres qui nous donne le salut. Si on voulait utiliser cette histoire pour faire dire que ce sont les bonnes œuvres qui donnent le salut, ce serait faux. C'est pas ce que Jésus a dit. Il termine seulement en disant « va et toi fais de même », mais il n'a pas dit « fais de même et tu vivras ». Nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés. Mais c'est parce que nous aimons Dieu et parce que nous savons que Dieu nous a aimés, que l'amour que Dieu nous a porté et que nous lui portons, alors, étant dans cette relation et dans cet amour, ça nous donne envie d'aimer ceux qui sont autour de nous. La relation est à l'envers. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Et, voyez, je me dis, qu'est-ce que cette histoire nous dit à nous aujourd'hui? Où sont nos Samaritains? Évidemment, on peut dire, dans un premier temps, on peut dire que ce sont, bien sûr, ceux qui, nos étrangers. Et c'est une évidence qu'on pourrait faire de cette parabole une application aux relations que nous avons avec les étrangers qui sont en séjour au milieu de nous. Moi-même, je suis étranger, je suis français, hein, ici en Alsace. Et donc, j'ai pu... Mais en voie de naturalisation, hein. Et on s'aperçoit que c'est pas toujours facile. Si on raconte cette histoire en mettant, si je la racontais bien, en mettant en forme que les Maghrébins nous dépassent, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous auraient des sourires un peu crispés. Hein? Il y a des sourires alsaciens un petit peu crispés, quand c'est comme ça. Hein? Un tout petit peu de crispation quand même. Pas beaucoup, parce qu'on met le reste à l'intérieur. Hein? Mais il y a quand même un peu de crispation. Et je crois qu'il faut que nous demandions à Dieu de sortir de là. Je ne crois pas que Dieu puisse réellement, vraiment, pleinement, profondément bénir l'Église d'un pays qui n'a pas décidé d'aimer tout le monde. Et aimer tout le monde, c'est aimer ceux qui sont différents. C'est pas seulement les étrangers, mais c'est aussi ceux qui sont différents. Ceux qui, à nos yeux, ont un handicap. Quelque part, on est tous un peu handicapés, puisque nous n'avons pas tous les mêmes talents, les mêmes capacités. On n'est pas tous capables des mêmes choses. Il y a des points sur lesquels certains d'entre nous sont très doués. Et les autres à côté le sont tellement peu qu'ils ont l'air d'être, vraiment, ouais, handicapés. Vous avez sûrement un handicap. Moi, je vais vous dire un truc, tiens. J'en ai jamais parlé, mais je vais m'expliquer un peu, tiens, ce matin. Moi, j'ai un handicap. Et qui m'a beaucoup perturbé. Et ce handicap, c'est que j'ai énormément de difficultés à reconnaître les gens, les visages, les physionomies. Alors quand je dis ça, les gens quelquefois me disent « Ah oui, moi aussi, je ne suis pas physionomiste. » Non, c'est... Non, j'ai peur que ce ne soit pas pareil. Moi, il me faut très longtemps pour reconnaître quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un le matin et ne pas le reconnaître l'après-midi. Et c'est un handicap. J'ai un handicap. Surtout dans un métier très relationnel, c'est un handicap. Hein. Ça m'est arrivé, par exemple, je vais une fois, c'est juste pour vous faire comprendre. Je vais des fois dans un grand magasin, on dit pas la marque, Conforama, par exemple. Eh bien, j'arrive là, je demande à un vendeur, je vois un vendeur, je lui dis, est-ce que vous avez tel produit? Il me dit, oui, d'accord, je vais voir derrière en réserve et je reviens. Il est parti. À peine il était parti, je dis, je sais pas qui c'est. Parce que j'ai pas fait l'effort de me dire, de me le pixeliser, là, pour m'en rappeler. Et donc je reste bêtement planté au milieu, parce que si lui il revient pas vers moi, je pourrais pas aller vers lui. Je sais pas qui c'est. Vous voyez? Je confonds, vous seriez étonné si vous saviez le nombre de personnes au milieu de vous que je confonds complètement. Combien de fois je vois des gens avec qui j'ai déjà parlé 36 fois, je les vois, je sais même pas que je les connais, vous voyez. Mais je mens pas à demander à ma femme. Combien de fois je suis là, je la pousse du coude, je lui dis c'est qui? Elle me dit mais enfin on l'a vu hier. Ah d'accord. Je suis comme ça, c'est un handicap. Et c'est très embêtant parce que je donne souvent l'impression d'être fier, d'être hautain ou je ne sais quoi, parce que je passe à côté de quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté, et je dis même, peut-être même pas bonjour. Si vous me croisez en ville, écoutez, venez, puis agitez la main. Hein? Vous me dites, je suis de la PO. Ah, d'accord, bonjour frère, ça va? Hein? Parce que moi, je reconnais pas. C'est comme les voitures, si vous me dites, tiens, dans ma voiture, c'est une telle marque. Mais j'en sais, je reconnais pas les voitures. Je sais pas les voitures. J'ai appris à bien connaître la mienne, hein. Je monte dans la mienne. Mais sinon, je sais pas. Je sais pas ce que c'est une 205, une, je sais pas, j'entends des numéros, mais je sais pas ce que c'est. Je peux pas reconnaître, j'en sais rien. Je sais pas. C'est tout, à part quelques-unes, celles qui sont très grosses, comme ça, avec des roues, comme ça. Mais sinon, elles sont toutes pareilles pour moi. Donc, vous voyez, ça, c'est un handicap. Mais moi, j'ai un handicap comme ça qui m'a vraiment fait des problèmes. Mais vous, chacun, vous avez des handicaps. Il y a des gens qui ont des handicaps émotionnels. Il y a des gens qui ont des handicaps dans leur capacité de raisonner. Il y a des gens qui ont des handicaps relationnels. Il y a des gens qui ont d'autres formes. Et nous sommes tous des handicapés. Oui, mais c'est vrai. Il nous faut admettre nos faiblesses, admettre nos limites, admettre nos échecs, admettre nos erreurs, pour pouvoir admettre ceux qui sont autour de nous et les aimer comme ils sont. Pour que nous puissions aimer ceux qui nous sont étrangers, ceux qui nous sont différents, ceux dont la bobine nous revient pas, voilà. Ceux qu'on aimerait voir différents. Chers amis, si nous devions vraiment répondre à la question, depuis combien de temps, quelle est la dernière fois où nous avons vraiment fait un effort pour aimer quelqu'un qui ne nous était pas directement, naturellement, en communion, en sympathie. Et ça remonte à quand? Si la dernière fois où nous avons fait cet effort remonte à je ne sais pas quand, des semaines, des mois en arrière, alors c'est qu'il y a un manque dans notre vie chrétienne. C'est qu'il y a un manque. Je suis allé il y a 2-3 jours dans un commerce. D'abord, j'ai dû retéléphoner 36 fois. Le commercial, à chaque fois, me disait « Oui, je vous rappelle dans 5 minutes. Ben, » Depuis 3 heures de l'après-midi, à 7 heures, j'y suis allé tout seul, hein, tellement il me rappelait. Et après, quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit « Oui, 5 minutes. » Une demi-heure après, j'étais encore en train de tourner en rond dans la boutique. Okay. Bon, alors, ces gens, voilà, des gens comme ça, moi... Ah, il m'agace. Naturellement, je veux dire, hein. Non, parce qu'après, je me retiens. Mais je veux dire, normalement... Normalement, il m'agace, quoi. Hein? Et puis après, j'ai dit, allez, Jean-Marie, il faut quand même... Alors après, quand j'étais enfin avec lui, je lui ai parlé gentiment. Je me suis dit, faut quand même, c'est quelqu'un aussi. Voilà, j'ai fait un effort. Et j'ai rudement bien fait, hein. Parce que quand il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que j'étais pasteur, et alors il avait des tas de questions à poser. Et si j'avais commencé en entrant à lui tirer la, à pas être sympathique, hein? Après j'aurais eu bonne mine. Je lui ai dit, j'amène une bonne nouvelle. Ben, il m'aurait dit, écoutez, hein? Vous la cachez bien, hein? Ouais. Alors. Et maintenant, je me dis, voilà, c'est quelqu'un à qui, voilà, j'ai pu dire quelques mots. Et maintenant, ben, parce que j'ai pu faire quelque chose, du coup, dans ma tête, ce monsieur m'est sympathique. Bon, si je dois y retourner, je verrai pour l'horaire. Mais sinon. Mais on crée quelque chose quand même. Vous voyez, c'est pas simplement le problème, bien sûr. Le problème, c'est que nous devons admettre, hein, d'aimer les étrangers. Et je vous dis honnêtement. Honnêtement, parce que, allez, bon, les internautes, vous pouvez buvez un petit café une seconde, c'est juste, on est entre nous. Mais, je veux dire, les Alsaciens, hein, les Alsaciens, allez, hein, les Alsaciens. Il y a une culture alsacienne quand même, hein, un petit peu, hein, hein, les Alsaciens, ils aiment bien être entre Alsaciens, hein, autour d'une bonne choucroute, hein. On se raconte des blagues alsaciennes, on m'en a traduit une l'autre jour, j'ai pas vraiment compris encore, mais c'est des bonnes blagues quand même. Je pense que c'est surtout en alsacien qu'elles font rire, hein. Je pense, hein, enfin c'est, je veux dire, c'est mon souhait pour vous, quoi, je veux dire. Mais le danger, ça c'est bien parce que c'est une force. Mais le danger, c'est que ça peut aussi devenir un petit peu une barrière vers l'extérieur. Ça peut être aussi une façon d'avoir un peu de la peine à aimer ceux qui sont autrement, ceux qui sont différents, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui ont un autre accent, ceux qui nous paraissent être un danger potentiel, un danger humain. Un danger économique, hein? Ce sont les Turcs qui viennent manger le pain de nos Portugais, hein? Mais ça peut être un danger, c'est un danger social, c'est un danger à notre intégrité culturelle. Et il faut nous ouvrir. Il faut que nous apprenions à les aimer. Il faut que nous apprenions à aimer ceux que Dieu a permis de mettre à côté de nous. Mais c'est vrai aussi, jusque dans l'Église. Dans l'Église, nous pouvons considérer certaines sortes de personnes comme des étrangers. Ceux qui sont socialement ceci ou cela. Ceux qui sont plus que nous, ceci ou cela. Et il faut que nous apprenions à nous dire que la parabole du bon samaritain, c'est pas une réponse théologique dans un débat théologique. C'est une réponse sociale, c'est une réponse humaine, c'est une réponse relationnelle à Jésus, de Jésus qui a replacé la discussion sur son vrai terrain. Pas sur un terrain doctrinal, mais sur un terrain de vie, sur un terrain d'implication, sur un terrain où on se donne. Et si notre foi, notre foi en Dieu, si notre vie chrétienne ne nous amène pas à quelque chose de différent, alors elle est pas plus que ce qu'était la croyance de ce docteur de la loi. Et puis j'aimerais aussi, juste pour terminer, dire deux mots. Et j'étais content que ce soit justement Christian qui fasse ce petit compte rendu qu'on aimerait plus large, plus fourni sur le Sénégal et sur la mission. Demain je pars en Algérie pour quelques jours aussi, et je demanderai de prier pour ça aussi, mais je veux dire, je crois que nous devons aussi demander à Dieu ce que nous devons faire dans ce cadre de la mission. C'est vrai pour chacun d'entre nous individuellement, et c'est vrai au niveau de l'Église, l'église locale, votre église locale. Jésus dit, priez le maître qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, parce que la moisson est grande. Mais Jésus regarde, il a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Alors il a dit, priez le maître qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et nous ne pouvons pas prier comme si l'exaucement ne devait devenir que de Dieu et comme si ces ouvriers qui seraient l'objet de cet exaucement allaient descendre du ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une prière. Ce genre de prière, c'est des prières extrêmement dangereuses. Parce que de deux choses l'une, soit Dieu ne nous exauce pas, mais s'il nous exauce, ça veut dire qu'il va envoyer des ouvriers. Mais ces ouvriers vont venir d'où? De parmi nous, tiens, malin. Alors, lesquels Dieu va prendre? Eh bien, il va prendre les meilleurs. Non? Il va pas envoyer ceux qui sont pas encore mûrs, ceux qui sont pas encore capables. Et je crois qu'il faut que nous attendre hein, à ce que dans les temps qui viennent, moi je crois que Dieu veut développer quelque chose au niveau de la mission qui est bien plus grand que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. J'ai pas dit meilleur, j'ai dit plus grand. Je dis que Dieu veut utiliser cette église, utiliser votre église pour travailler dans la mission d'une façon bien plus grande. Les Juifs avaient un terrain missionnaire au milieu d'eux. La Samarie était enclavée entre la Galilée au nord et la Judée au sud. Eh bien, quand ils devaient, au lieu de considérer ce terrain comme un terrain de mission, les plus puristes faisaient le tour par un territoire païen pour éviter de les traverser. Comme c'est triste. Comme c'est triste. C'est tellement facile d'aimer son lointain. Aimer son lointain comme soi-même. Vous avez déjà essayé? Mais c'est du gâteau. Et je parle à des Alsaciens. C'est du gâteau. Aimer son lointain, oh là là, ça c'est un plaisir. Aimer les Algériens d'Algérie, oh là, ça c'est super. Aimer les Algériens en France, ça c'est notre prochain. C'est plus notre lointain. Bon, c'est déjà un peu différent. Ouais. Oui, mais ouais, attendez frère, parce que là vous ne les connaissez pas bien, hein? Nous, on les connaît, hein? Voilà. Dieu nous les a mis là. Il faut que l'Église de France, je l'ai dit déjà plusieurs fois, il faut que l'Église de France prenne bien garde. Il faut que l'Église de France prenne bien garde que l'immigration en Europe n'est pas une erreur démographique. C'est un plan de Dieu. Et si l'Église de France, si l'Église d'Europe ne se charge pas de répondre à ce défi, alors c'est dans son intégrité même qu'elle va souffrir. Il nous faut nous préparer à nous attendre à ce que Dieu lève des missionnaires au milieu de nous pour qu'ils partent au loin et qu'ils partent au loin juste à côté de nous aussi. Dieu veut envoyer des missionnaires dans les cultures, dans des rapports culturels différents, avec les peuples qui sont sur notre territoire métropolitain et qui ne connaissent rien à l'Évangile, et que l'Église jusqu'à présent n'arrive pas à atteindre. Je dis l'Église de France, pas seulement celle-ci ici, mais parce que nous n'avons pas abordé réellement ce sujet. Parce que nous sommes passés à côté, parce que nous avons seulement regardé le côté gêne, le côté inconfort, le côté danger, le côté insécurité. D'autres Jean-Marie que moi vous ont donné d'autres messages à propos de ça. Hein? Mais il nous faut savoir quel est le message que Dieu nous donne. C'est pas un message lénifiant, tout est beau, tout va bien, c'est pas ce que je veux dire. Les pouvoirs publics doivent prendre des lois, il doit y avoir des règles, la République existe, il y a une constitution, il y a du droit, il y a des devoirs respectifs, etc. Tout ça existe. Mais ce que Dieu nous, le défi que Dieu met devant nous, c'est d'aimer les étrangers qu'il a mis à côté de nous. Le défi que Dieu met devant nous, c'est d'être prêt à nous mobiliser pour envoyer des ouvriers au loin. Au loin. La francophonie réclame des missionnaires. Pas seulement en Afrique du Nord, pas seulement en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, mais même en Asie, il y a des régions francophones qui manquent cruellement de l'annonce de l'Évangile, où des francophones pourraient agir avec beaucoup de force, beaucoup d'efficacité, envoyés par le Seigneur et soutenus par des églises qui ont compris le défi. Frères et sœurs, nous arrivons à un temps, l'Église arrive dans une période charnière. Nous avons aujourd'hui des moyens. Je ne dis pas que la mission doit être comme elle se faisait au temps de Hudson Taylor, mais je dis qu'elle doit se faire. On peut aujourd'hui aller et venir beaucoup plus vite, on peut être plus efficace en peu de temps, on n'est pas obligé de mettre 6 mois pour atteindre l'endroit où on va. On peut, avec des médicaments et l'aide de Dieu, mais je veux dire, la médecine existe aussi, et elle a quand même aidé aussi dans beaucoup de domaines. Alors, il nous faut nous engager. Frères et sœurs, je crois honnêtement que Dieu va mettre sur nos cœurs un fardeau pour la mission qui sera bien différent de ce que nous avons connu jusqu'ici. Et nous allons reconsidérer notre vision des Samaritains. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te réclamer. Nous voulons te réclamer ce matin que nous puissions, nous chacun individuellement et ensemble en tant qu'église locale ici, mais les églises locales de tous nos frères et sœurs qui sont avec nous ce matin sur le net. Mais Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes ta vision pour le monde, ta vision pour l'Europe, pour la France, pour la francophonie. Seigneur, ta stratégie, communique-nous, Seigneur, ta stratégie missionnaire. Montre-nous, Seigneur, comment nous devons prier pour que tu envoies des missionnaires, pour que tu envoies des ouvriers, ici en France, mais dans bien d'autres endroits aussi. Seigneur, nous sommes incapables pour cela. Ça nous dépasse tout à fait. Seigneur, nous voyons, c'est une tâche tellement immense. Le champ nous apparaît comme à perte de vue. Mais Seigneur, donne-nous seulement de savoir quelles sont les limites dans lesquelles nous travaillons, nous. La part que tu nous as réservée. Je te prie ce matin pour qu'il puisse y avoir maintenant l'éclosion dans des cœurs, ici dans cette salle et chez ceux qui, les cœurs de ceux qui nous regardent, l'éclosion de vocation missionnaire. L'éclosion de vocation missionnaire. Seigneur, je te prie. Ceux que tu as choisis pour cela, Seigneur, je te prie maintenant qu'ils puissent entendre cette parole dans leur cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, que ta gloire soit sur nous. Aide-nous, Seigneur, à être conséquents avec notre foi.
Enseigne-moi.com
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.